Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour nos conférences du mardi soir. Donc bienvenue aux personnes qui nous suivent en direct et bientôt en différé sur la chaîne YouTube de l'Institut d'astrophysique de Paris et dans notre amphithéâtre à l'Institut d'astrophysique de Paris. Nous sommes ravis d'accueillir tout ce monde. Donc aujourd'hui, figurez-vous que dans cet amphithéâtre, tout à l'heure dans l'après-midi, on était beaucoup de scientifiques à être réunis ici puisqu'il y avait la présentation des premières images du satellite observatoire Euclide. Peut-être certains d'entre vous l'ont suivi. Le satellite Euclide, c'est un satellite de l'Agence spatiale européenne qui étudie l'univers à grande échelle, l'accélération de l'expansion de l'univers, l'énergie sombre et toutes ces questions-là. Un projet dans lequel l'Institut d'astrophysique de Paris est très impliqué. On a eu des conférences publiques sur ce sujet-là. On en aura d'autres par la suite. Donc voilà, l'audience a changé. Là, on a des personnes de l'extérieur qui nous rejoignent à l'IAP, donc on est très content de vous accueillir. Et donc, je vous donne quelques mots rapidement sur la programmation des prochaines conférences dans notre amphithéâtre et toujours en direct sur YouTube. Donc, le mois prochain, le 5 décembre 2023, nous aurons Pierre Léna et Jean-Claude Vial qui nous présenteront une conférence intitulée « Histoire d'éclipses et de couronnes solaires autour de Serge Couchmi ». On fera référence à notre collègue Serge Couchmi, disparu il y a quelques mois à présent. Le 9 janvier, nous aurons notre collègue Amandine Lebrun qui nous présentera une conférence intitulée « Les amas de galaxies comme sondes cosmologiques et laboratoires astrophysiques ». Le mois suivant, le 6 février, nous recevrons Vanessa Hill qui nous parlera de physique stellaire. Et le 5 mars, nous recevrons Gérard Mourou qui est prix Nobel de physique 2018, qui nous parlera de ses travaux en physique. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Thébault. Donc je vais vous le présenter brièvement. Déjà, je vais dire que c'est un ami, mais alors c'est pas juste pour ça qu'il est invité. Il est invité notamment parce que Philippe Thébault est enseignant-chercheur à l'Observatoire de Paris. Il travaille au pôle planétologie du LESIA, l'un des gros laboratoires de l'Observatoire de Paris. Tu as travaillé également plusieurs années à l'Observatoire de Stockholm, à l'Observatoire de Shanghai. Et donc, tes sujets d'expertise, donc c'est les systèmes planétaires, leur formation, notamment leur formation dans les systèmes binaires, la modélisation des disques de débris, des disques circumstellaires. En plus de tes activités de recherche, tu travailles au PAEL La Découverte, où tu fais de nombreuses séances de planétarium. Le PAEL La Découverte qui est en travaux actuellement, donc c'est déporté aux étincelles du PAEL La Découverte, mais donc il rouvrira bientôt avec un nouveau planétarium. Et donc aujourd'hui, tu nous présentes une conférence intitulée « La formation planétaire ». Et juste avant de te donner la parole, je rappelle qu'à la fin, donc, le public pourra poser des questions, faire des commentaires, et également les personnes qui nous suivent sur YouTube. Donc n'hésitez pas de poser des questions et de faire des commentaires avertis sur le chat de YouTube. Voilà, je t'en prie.
Merci Guillaume. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Bonsoir, merci d'être venu. Une salle pleine, je suis flatté. Donc, vous parlez de formation planétaire en une heure, c'est un petit peu une grosse gageure, parce que ça ne paraît pas comme ça, mais c'est un domaine très, très vaste, qui recoupe des thématiques de recherche extrêmement diverses et variées. Ça peut aller de la formation des étoiles dans les nuages de gaz, à la datation des météorites, à l'histoire des cratères sur la Lune, à la stabilité des systèmes planétaires à long terme. Tout ça, ça fait que si vraiment on veut avoir une vue d'ensemble en une heure du sujet, on va être obligé, pour beaucoup de concepts et de notions, de survoler ça à haute altitude, parfois même à très haute altitude. Donc si vous êtes venu pour avoir des détails, des équations très compliquées, c'est pas votre soirée. L'autre petit problème que ça pose, c'est qu'il n'y a aucun chercheur qui étudie la formation planétaire dans son intégralité. C'est un domaine beaucoup trop vaste, chacun étudie une petite partie de cette grande thématique, et j'échappe pas à la règle, hein. Mon thème de recherche, c'est une toute petite partie de ce que je vais vous présenter ce soir. Donc l'écrasante majorité de ce dont je vais vous parler ce soir, c'est pas mon sujet de recherche. Je suis stricto sensu pas un spécialiste de 95% de ce que je vais vous raconter ce soir. N'ayez pas peur, j'ai quand même révisé avant, je pense que je ne vais pas dire de bêtises. Je vais quand même vous parler de mon sujet de recherche, ça sera le tout dernier transparent. Et on ne va peut-être pas y arriver, parce qu'en général je fais beaucoup trop lent et beaucoup trop long. Mais si vous voulez rester jusqu'à la fin, mon dernier transparent, ça sera mon sujet de recherche à moi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du scénario de formation des planètes, dans ces grandes lignes, je vous propose, pour commencer, qu'on regarde ensemble le système solaire actuel tel qu'il est, pour voir dans sa structure, dans ses caractéristiques, les indices qui pourraient nous renseigner sur son histoire, sur la manière dont il se serait ou se serait pas formé. Alors on va commencer par très 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 simple, on va aller crescendo. Alors très très simple, c'est évident pour tout le monde et ça fait jamais mal de le rappeler, le système solaire c'est un truc plat, c'est-à-dire quasiment toutes les planètes orbitent dans le même plan autour de l'étoile Soleil. Alors, vous allez me dire c'est une énorme banalité, mais ça implique pas mal de choses. Ça implique que il est peu probable que le Soleil ait capturé les planètes au cours de son histoire, les unes après les autres. Parce que dans ce cas-là, on s'attendrait plutôt, il faut que je fasse avec ma flèche, à quelque chose comme ça, une structure un peu comme l'atome, avec des orbites un petit peu partout. Non, si vraiment toutes les planètes sont alignées et qu'elles tournent dans le même sens aussi, ça incite fortement à se dire que les planètes ont une origine commune. A priori, pas sûr à 100%, mais c'est un fort indice, et que cette origine commune a dû se passer à un moment donné dans un disque. Voilà. Alors, on va crescendo, mais modérément. Ensuite, ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on parle du système solaire, si on parle en quantitatif, on pourrait ne parler que du Soleil. Le Soleil, à lui tout seul, c'est 99,8% de la masse du système solaire. Toutes les planètes ensemble, c'est à peine plus que 1 ou 2 millièmes de la masse du système solaire. Donc l'écrasante majorité de la masse du système solaire est dans le Soleil lui-même. Par contre, si vous regardez une quantité qu'on appelle le moment cinétique, en gros c'est l'énergie de rotation dans le système solaire, on va faire simple, là c'est l'inverse, 98% du moment cinétique est dans les planètes. Ça implique quoi ? Ça veut dire que si jamais, soyons fous, on a un scénario qui arrive à former en même temps le Soleil et les planètes, il faut trouver un mécanisme qui arrive à faire en sorte que quasiment toute la masse va en centre pour former le Soleil, très peu de masse va sur l'extérieur, mais emporte quasiment toute l'énergie de rotation. Donc il faut arriver à faire un petit peu une quadrature du cercle. Alors on arrive aux choses un peu moins basiques. De quoi est fait le système solaire ? Là encore, j'imagine, c'est assez clair pour tout le monde. Le système solaire, et là je m'intéresse aux planètes, grosso modo, on peut diviser ça en deux groupes de planètes. Les planètes telluriques, les quatre les plus proches du Soleil, qui sont en gros des boules de roche, de la matière solide, qui contiennent extrêmement peu d'hydrogène et d'hélium. Ce qui est plutôt bizarre parce que l'univers dans son ensemble, il est quasiment intégralement constitué, pas intégralement, mais dans sa très vaste majorité, d'hydrogène et d'hélium. Le Soleil, c'est une grosse boule d'hydrogène et d'hélium. Tous les autres éléments, à part l'hydrogène et l'hélium, représentent une minuscule fraction de la masse du Soleil et de la masse de l'univers. Donc déjà, les planètes les plus internes ont une composition qui n'a rien à voir avec la composition du Soleil et avec la composition de l'univers dans son ensemble. Les planètes géantes, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut diviser en deux sous-groupes, les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, qui sont composées... Alors, c'est pas très sexy mon graphe, mais... qui sont composés essentiellement du gaz, à plus de 90%, 80-90%, mais contrairement à ce qu'on croit parfois, ce n'est pas seulement du gaz. Vous voyez que Jupiter et Saturne, la masse de roche et de glace qu'elles contiennent est largement supérieure. Ah oui, ce petit signe là avec la petite croix, ça veut dire masse terrestre. J'ai oublié. Voilà. Contiennent plus de matière solide que la Terre. Par exemple, même si vous enleviez tout le gaz de Jupiter, tout le gaz de Saturne, il reste largement de quoi fabriquer quelques dizaines de Terres. Et puis, il y a Uranus et Neptune, alors là, qui est encore un cas différent, c'est les géantes glacées, l'essentiel de leur masse, c'est de la glace, alors c'est la glace d'eau, mais pas seulement, la glace de méthane, etc., contiennent aussi beaucoup de gaz, et puis il y a des grandes inconnues qui commencent à être un peu moins inconnues maintenant avec des missions spatiales, qui est que comment est répartie la matière solide dans ces planètes géantes ? Est-ce qu'il y a vraiment un cœur solide et tout le gaz autour ? Ou est-ce que c'est dilué ? C'est pas encore tranché à 100%, mais on commence à avoir d'assez bonnes idées de comment ça devrait être. Alors on peut s'amuser à faire un jeu quantitatif. Quelle est la masse totale des planètes telluriques ? La masse totale des planètes telluriques, c'est quelques millionièmes de la masse du Soleil. Et la masse totale des planètes géantes, c'est un peu plus que 1 millième. Et on peut s'amuser à jouer à un jeu encore un peu plus compliqué. On peut se dire, supposons que le système solaire se soit formé à partir de la matière qui compose le Soleil, c'est-à-dire la composition solaire c'est-à-dire essentiellement de l'hydrogène, de l'hélium, et puis des traces de tous les autres éléments, qu'on appelle, nous en astronomie, on appelle ça les métaux. La métallicité de quelque chose, en astronomie, nous on est assez bourrin, on a du mal à compter jusqu'à plus que 3 en astronomie, donc tout ce qui est au-delà de l'hydrogène et de l'hélium, c'est les métaux, c'est la métallicité, c'est les éléments lourds. Donc, si on s'amuse à partir de l'idée que tout ça, ça a été formé à partir de la matière, la composition du Soleil, on regarde la composition actuelle du système solaire, et on se dit, rajoutons la quantité d'hydrogène et d'hélium qui manque pour revenir à la composition du Soleil. Par exemple, si vous avez dans les planètes terrestres tant d'atomes de silicium, de carbone, d'oxygène, je ne sais pas quoi, vous savez quelle est leur abondance dans le Soleil, ou dans le milieu interstellaire, ou dans la galaxie, vous remontez, vous rétro-pédalez, vous rétro-ingénierez, et vous regardez combien il va y avoir d'hydrogène et d'hélium si on était parti de la composition du Soleil. Avec ça, vous reconstituez une entité théorique qu'on appelle la nébuleuse solaire de masse minimale, qu'on appelle dans le jargon la MMSN, la Minimum Mass Solar Nebula, et vous trouvez un truc qui fait à peu près 3% de la masse du Soleil. Et vous pouvez même aller plus loin dans votre jeu. Vous pouvez voir comment c'est distribué en fonction de la distance au Soleil. Si vous partez du principe que vous prenez la planète Mercure, vous la cassez en 1000 morceaux, voilà, vous regardez de quoi elle est faite, vous rajoutez tout l'hydrogène, tout l'hélium qu'il faut, et vous remplissez tout l'espace entre Mercure et Vénus. Ensuite, vous faites pareil que Vénus, vous cassez Vénus en 1000 morceaux, vous rajoutez tout l'hydrogène, tout l'hélium qu'il faut, et vous comblez l'espace entre l'orbite de Vénus et l'orbite de la Terre. Vous faites pareil sur la Terre, vous faites pareil sur Mars, et vous reconstituez la tête qu'avait cette nébuleuse de masse minimale. En gros, ça a cette tête-là. Alors là, j'avais dit que le graphe d'avant n'était pas sexy, mais là, on atteint un nouveau nadir. Vous avez ici la densité de matière dans votre nébuleuse, et ici, c'est la distance au Soleil. Alors, c'est une échelle logarithmique. Ça, c'est une unité astronomique, la distance Terre-Soleil. Ça, c'est 10 unités astronomiques, la distance de Saturne. Vous voyez que vous obtenez un truc un peu bizarre, avec un immense trou ici, au niveau de la ceinture d'astéroïdes. Parce que, contrairement à l'image d'Épinal qu'on a parfois, la ceinture d'astéroïdes, vous ramassez toute la masse qu'il y a dans la ceinture d'astéroïdes, vous ne pouvez pas faire une planète. Vous faites un truc assez minable. Il n'y a pas assez de matière dans la ceinture d'astéroïdes pour faire une planète aujourd'hui. Donc il y a un immense trou. Et si vraiment vous êtes optimiste, vous pouvez extrapoler de là à là. Et voilà, vous pouvez... Il y a des gens qui ont essayé de smousser... Ah oui, si vous n'aimez pas les anglicismes inutiles... je vous préviens d'avance, vous allez passer une très mauvaise soirée. J'ai un vilain défaut, c'est le défaut de tous les chercheurs. On utilise plein d'anglicismes là où on n'en a pas besoin. Mais donc voilà, donc, je vous préviens. Donc on va lisser, voilà, pas se mousser, on va lisser la distribution de matière dans cette nébuleuse et puis on obtient un truc un peu comme ça. Ça, c'est la distribution de matière solide. Vous voyez que c'est plus dense près du Soleil, ça devient de moins en moins dense. Ici, il y a un truc un peu miraculeux qui se passe, ça redevient plus dense. C'est un endroit dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ce qui s'appelle la ligne des glaces. C'est l'endroit dans le système solaire où la glace d'eau peut se condenser. Si vous êtes plus près que cette limite-là, la glace ne peut pas se former. Si vous êtes au-delà, la glace se forme. Et la glace, c'est de la matière solide supplémentaire. Donc vous avez ici un facteur 3 ou 4 de matière solide en plus, et puis vous avez ici la matière solide contenue dans les planètes géantes. Ensuite, vous multipliez par ce qu'il faut pour retrouver le gaz d'hydrogène et d'hélium qui manquait, et vous avez la distribution qui est là. Voilà. Bon, je vous rassure, je pense que ça, c'est la chose la plus moche que je vais vous présenter ce soir. Ça ne peut que aller mieux. Ensuite, des contraintes encore moins basiques, mais peut-être la contrainte la plus importante, c'est que on a une très, 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 très bonne idée de l'âge du système solaire. Et cette idée de l'âge du système solaire, on l'a obtenue grâce à la datation des météorites. Les météorites, enfin certains types de météorites, on pense que c'est les objets les plus primitifs du système solaire qui, depuis leur formation, n'ont quasiment pas évolué. Alors que si vous analysez le sol des planètes, il y a eu pas mal de changements, il y a eu pas mal de réactions physiques et chimiques. Certaines météorites, qu'on appelle les chondrites en particulier, on pense que ce sont les météorites les plus intactes, les éléments les plus primordiaux dans le système solaire, et dans ces météorites, les chondrites, il y a plusieurs composants, et notamment ce qu'on appelle les inclusions CAI, qui sont, on pense, les plus vieilles roches, les plus vieilles particules solides qui se sont formées dans le système solaire. Et ces roches, on a pu les dater. Alors c'est assez compliqué, c'est une science assez intéressante, très intéressante même, la datation des météorites avec des désintégrations isotopiques de l'uranium en plomb avec des isotopes du plomb, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a réussi à montrer que l'âge des plus vieilles roches CAI, c'est 4,5672 milliards d'années. Chaque chiffre après la virgule est significatif. On date donc l'âge du système solaire à une précision de quelques centaines de milliers d'années. On peut même aller plus loin, c'est regarder d'autres types de météorites qu'on appelle les météorites ferreuses. Ce sont des météorites composées de métaux, et on pense que ces météorites, elles viennent de corps un peu moins primitifs, de corps qu'on appelle des corps différenciés, c'est-à-dire des corps qui étaient suffisamment gros pour qu'il y ait une espèce de percolation des éléments lourds qui vont au centre et des éléments légers qui vont à l'extérieur. Ces premiers éléments différenciés, qui devaient faire peut-être quelques centaines de kilomètres, on peut aussi les dater avec les météorites ferreuses, et on voit, alors si vous comparez les deux chiffres, la différence entre ces deux chiffres, c'est combien ? 1 million d'années, voire peut-être même moins. On pense qu'en l'espace de quelques centaines de milliers d'années, les premiers gros corps de quelques centaines de kilomètres se sont formés dans le système solaire. Ensuite, si vous analysez les météorites qui viennent de la planète Mars, les météorites martiennes, on peut dater que la durée maximale de formation de la planète Mars est d'environ 10 millions d'années. Et si on fait le même jeu sur la Terre, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal d'activités sur Terre, on pense mettre un temps maximal pour la formation de la Terre de 100 millions d'années. Donc là, on a des contraintes vraiment fortes, on a vraiment beaucoup d'informations très utiles. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est ce qu'on appelle le modèle standard. C'est en gros le scénario sur lequel, dans ces grandes lignes, les scientifiques s'accordent depuis les années, on va dire, 70-80, de formation planétaire. Alors ce scénario, il va aller chercher ses origines beaucoup plus loin que les années 70-80. On peut chercher son origine au XVIIIe siècle avec les philosophes et scientifiques Kant et Laplace, qui sont les premiers, en gros, à avoir eu l'intuition, l'idée, en regardant un petit peu ce que nous avons regardé en tout début de présentation, que le Soleil et les planètes ont une origine commune. Et l'idée, c'est qu'en gros, on part d'un grand nuage, alors pour eux c'est un nuage de poussière, mais aujourd'hui on pense que c'est plutôt un nuage de gaz, c'est un nuage de gaz qui s'effondre sur lui-même. En s'effondrant sur lui-même, pour conserver le moment cinétique, c'est le fameux coup du patineur qui serre les bras pour tourner plus vite, il tourne de plus en plus vite, à un moment donné, ça tourne tellement vite que la force centrifuge commence à former un disque. Dans ce disque, eh bien, des petits grains vont se condenser. Ces petits grains vont se cogner les uns avec les autres, devenir des cailloux qui vont devenir des rochers. Ces rochers ensuite vont s'accréter les uns aux autres, former ce qu'on appelle les planétésimaux, qui vont ensuite donner les planètes et le système solaire aujourd'hui. Donc voilà, si vous êtes pressé, voilà, je l'ai fait en 30 secondes, on ne va pas dire grand-chose de plus que ça. C'est le scénario standard. Alors ce scénario standard, il a quand même été méchamment amendé à partir du milieu des années 1990, et c'est ça aussi qui fait que c'est difficile de vous parler de formation planétaire en moins d'une heure, c'est que aujourd'hui, le scénario de formation planétaire, il est très tributaire de ce qu'on sait sur les exoplanètes. C'est-à-dire, j'imagine que vous êtes tous au courant, qu'on a découvert des centaines, des milliers même, de planètes autour d'autres étoiles. On connaît des milliers d'autres systèmes planétaires que le système solaire. Et le scénario standard, il a été construit à une époque, où il a été pensé à une époque où ces systèmes exoplanétaires n'existaient pas. Et depuis qu'on les a découverts, eh bien, il y a pas mal de choses qui ont changé, et des choses qui changent vite. Il y a des scénarios ou des points de détail qui on pensait être paroles d'évangile il y a 10 ans, qui sont complètement rejetés aujourd'hui. Donc c'est une science qui évolue assez vite, en particulier à cause de ces exoplanètes. Donc, ce dont je vais vous parler tout d'abord, c'est le scénario de formation planétaire de notre système solaire, par défaut. Et ensuite, dans la dernière partie de ma présentation, on va voir comment il faut réviser ça ou comment il faut changer ou amender ça quand on regarde tous les systèmes exoplanétaires qu'on connaît aujourd'hui. Alors, l'avantage du scénario standard, c'est que c'est un scénario qui est assez séquentiel. On peut le décomposer en plusieurs étapes qui font appel à des processus physiques assez différents qu'on peut étudier les uns presque indépendamment des autres. C'est un gros presque, mais on va faire comme si. Alors, au départ, On va partir de ce qu'on appelle un nuage moléculaire. Nuage moléculaire, c'est un grand nuage de gaz. Hein, vous savez peut-être, le gaz qui constitue les étoiles aujourd'hui, il n'était pas toujours dans une étoile. Une étoile, avant de naître, le gaz qui la constitue se trouvait dans des gigantesques structures, ces nuages moléculaires, des nuages de gaz extrêmement grands, qui font plusieurs années-lumière ou des fractions d'années-lumière ou de parsecs de taille, qui contiennent plusieurs, au moins une masse d'étoiles, une masse solaire, qui sont extrêmement froids. Hein. Ces nuages moléculaires ont une température de 10 degrés Kelvin, donc moins 200 et quelques degrés Celsius. Ils sont très, très, très peu denses. Alors là, vous allez me dire, oh non, il y a des milliers de molécules par centimètre cube. Des milliers de molécules par centimètre cube, c'est en gros très proche du vide. C'est très, 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 très dilué. Et puis, ces nuages moléculaires ont une structure qu'on appelle hydrostatique, qui fait que la densité est fonction de la distance au centre. Et puis, ces nuages moléculaires, simplement parce qu'ils se baladent dans la galaxie, il y a des mouvements dans la galaxie, des mouvements keplériens, etc. Ils tournent sur eux-mêmes, c'est vraiment le hasard, hein, si vous jetez une boule de gaz en l'air et vous la laissez se débrouiller par elle-même, elle va forcément avoir tendance à tourner dans une certaine direction. C'est un petit peu le hasard comme ça. On va partir de ça. Comment à partir de ça, on arrive à former une étoile avec des planètes autour? Alors la première étape, c'est que dans ce disque, dans ce nuage de gaz, il y a des petites poches de surdensité de gaz qui vont se former, qui sont déjà là à un moment donné, qui vont s'amplifier, et pour des raisons qu'on ne maîtrise pas encore à 100%, certaines de ces surdensités vont devenir instables. C'est-à-dire que l'équilibre qu'il y a entre la gravité qui a tendance à faire s'effondrer le gaz sur lui-même et la pression due à la température qui a tendance à le maintenir dilué va se rompre. Certaines poches de gaz vont s'effondrer sur elles-mêmes, devenir de plus en plus denses, en plusieurs endroits. Alors, ici, voilà, vous avez trois ou quatre, on va dire, noyaux qui vont donner des étoiles. Là, on s'intéresse à l'un de ces noyaux, on zoome dessus. Le nuage s'effondre sur lui-même. La matière va aller de plus en plus vers le centre, mais, et là, c'était l'intuition correcte de Kant et Laplace, le nuage en s'effondrant va tourner de plus en plus vite sur lui-même pour conserver le moment angulaire. Il va donc s'aplatir, il y a un disque qui va se former, et on arrive à une étape un petit peu compliquée, où vous avez à la fois ici de la masse qui s'est condensée au centre, qui va former l'étoile. On va l'appeler la proto-étoile. Ce n'est pas encore tout à fait une étoile. Vous avez encore de la matière, c'est pas facile avec la flèche, de la matière qui s'effondre du nuage vers l'intérieur, mais la matière qui s'effondre du nuage, en fait, elle va s'effondrer sur le disque qui s'est déjà formé. Donc, le nuage communique avec le disque, et le disque, dans le disque, la matière est en rotation autour de la proto-étoile, mais à cause d'interactions qu'on appelle des interactions visqueuses, la matière va lentement spiraler vers le centre de l'étoile, elle va être accrétée par l'étoile, et l'étoile va redistribuer une partie de la matière qu'elle accrète avec des jets polaires perpendiculaires à son axe de rotation. Donc ensuite, vous voyez que ça va très vite, hein. Là on parle de quelques dizaines ou centaines de milliers d'années. À l'échelle de la vie d'une étoile ou d'un système planétaire, c'est vraiment très peu. Donc, ça en gros, c'est la même chose que ça, mais un peu plus avancé. Il reste toujours le reste du nuage, et à partir d'un moment donné, le nuage a disparu, il reste un disque. Au centre, on a vraiment une étoile, c'est-à-dire que les réactions de fusion thermonucléaire au centre de l'étoile se sont enclenchées, et puis, dans le disque vont démarrer les processus qui vont donner la formation planétaire. Alors là, c'est ce genre de schéma-là, dont 95% des présentations sur la formation planétaire, on vous les montre, et on vous montre un joli nuage qui s'effondre, un disque qui se forme, etc. Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, quand même, c'est que les étoiles ne se forment pas seules. Les étoiles se forment en groupe, on en est certain. Ce qui fait qu'une vision un peu plus correcte de la réalité, ça serait plutôt ça. Ça, c'est une vraie simulation numérique, si tant est qu'elle représente la vérité, mais ce n'est pas un film d'animation, c'est une vraie simulation numérique de l'effondrement d'un nuage moléculaire et de la formation, au début de formation, d'étoiles dans ce nuage, pour vous montrer que c'est extrêmement compliqué. Vous avez des dizaines, des centaines d'étoiles qui vont se former en même temps. Regardez, certaines étoiles sont déjà formées, on les voit, d'autres sont en train de se former, D'autres endroits, vous avez des surdensités qui n'ont pas donné des étoiles, et les étoiles, regardez, interagissent les unes avec les autres. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée, extrêmement complexe. Les tout premiers centaines de milliers, millions d'années de la vie d'une étoile, il faut bien voir que, a priori, on est dans un environnement qui peut ressembler à ça, où il y a beaucoup d'interactions entre des étoiles qui se forment les unes à côté des autres. Et, vous le savez sans doute, je ne rentre pas dans les détails, les étoiles peuvent avoir des masses très différentes. Vous avez des étoiles très massives, des étoiles très peu massives, les plus abondantes sont les étoiles les moins massives, mais les étoiles les plus massives, en fait, vont se former, vivre, et même mourir avant que les étoiles les moins massives aient même commencé le tout début de leur vie, en fait. Donc, il y a un environnement extrêmement complexe, dont on ne va pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais tout ce que je vais vous présenter à partir de maintenant, n'oubliez pas que ça se passe dans un environnement qui est dynamiquement très complexe, avec plein d'étoiles qui se forment assez proches les unes des autres. Donc, à un moment donné, se forme ce qu'on va, à partir de maintenant, appeler un disque protoplanétaire, c'est-à-dire un disque dans lequel les planètes vont se former. Alors, jusque dans les années 90-2000, on pensait que ces disques protoplanétaires se comportaient d'une manière assez simple. On appelait ça des disques d'accrétion. En gros, j'ai un peu zoomé, vous avez... En fait, j'ai pas tenu ma promesse de dire que j'avais des transparents moins moches après. Celui-là, il est dans le top 3, on va dire. Donc, vous avez ici la matière qui arrive du nuage, elle va dans le disque, et ensuite, dans le disque, ce qui se passe, là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est que vous avez de la turbulence. En gros, c'est-à-dire que vous avez le gaz fait des petits mouvements un petit peu aléatoires, mais sur des échelles assez grandes, ça fait des échanges de matière, et si vous faites le bilan, eh bien, vous avez un échange de matière qui fait qu'il y a une partie de la matière qui va perdre de l'énergie de rotation, et qui va donc tomber sur l'étoile, tandis qu'une partie va en gagner et va s'étendre. Le disque va s'étaler, en fait, avec plus de matière qui va vers le centre, moins de matière qui va vers l'extérieur, mais cette matière va emporter beaucoup de moments angulaires, de moments cinétiques. Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure ? C'est exactement ça qu'on cherche. L'essentiel de la masse qui va vers le centre et l'essentiel de l'énergie de rotation qui va plutôt vers l'extérieur. Alors, on peut faire des calculs pour montrer que ce disque, il devait faire entre 0,03 masse du Soleil, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, le petit calcul à la nébuleuse de masse initiale. Et puis, au maximum, il y avait 0,3 masse solaire dans ce disque, parce que s'il y avait plus que ça, le disque devient gravitationnellement instable, il se décompose totalement. Alors, il y a un profil de densité, je ne rentre pas dans les détails. On pensait qu'en gros, c'était comme ça que ça se passait. Malheureusement ou heureusement, les choses se sont révélées être beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça. Et là, je ne rentre pas dans les détails. On pense aujourd'hui que la structure d'un disque protoplanétaire, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ce que je viens de vous raconter, là, on pense que ça se passe uniquement, alors attendez, il faut que je retrouve ma petite flèche, dans les zones les plus internes du disque. Les zones extrêmement chaudes, où toute la matière est évaporée et ionisée, là on pense qu'effectivement, il y a de la turbulence, et il y a ce qu'on appelle la viscosité turbulence, et ce mouvement de matière qui va s'accréter sur l'étoile, et de la matière qui s'étale. Mais dès que on sort de cette région ultra chaude, vous voyez qu'il fait 1000 degrés Kelvin, là. Dès qu'on s'éloigne, en fait, il ne fait pas assez chaud au cœur du disque pour ioniser la matière, pour la faire évaporer. C'est ce qu'on appelle une dead zone, une zone morte, je vous préviens les anglicismes, dans laquelle il se passe des trucs un petit peu bizarres, mais le message à retenir, c'est que dans les parties extérieures du disque, la matière, elle va être éjectée par un couplage avec le champ magnétique de l'étoile, ça s'appelle la diffusion ambipolaire. Alors, diffusion, j'aime bien dire diffusion ambipolaire, si j'étais scénariste d'un film de science-fiction dans lequel on doit avoir un scientifique qui dit des trucs qui font sérieux, j'utiliserais le mot diffusion ambipolaire, c'est vraiment très classe. La diffusion ambipolaire qui va en gros éjecter une partie de la matière en dehors du disque, et cette matière va emporter avec elle de l'énergie de rotation. Et comme elle emporte de l'énergie de rotation, le disque perd de l'énergie de rotation. Et si vous perdez de l'énergie de rotation, eh bien, vous allez finalement faire comme cette partie du disque-là, vous allez avoir de la matière qui va se rapprocher de plus en plus de l'étoile et va être accrétée par l'étoile. Alors ça, c'est un petit schéma illustratif. Ça, c'est une vraie simulation numérique qui a été faite, c'est extrêmement compliqué, vous avez les lignes de champ magnétique, vous voyez qu'il y a des endroits, c'est très irrégulier, il y a des endroits où il y a des surdensités de matière, des surdensités de gaz, c'est assez compliqué, mais ça, c'est en gros, c'est très récent, on va dire sur les 5-10 dernières années, c'est à peu près l'image qui fait à peu près consensus. On ne peut pas rentrer dans des détails comme ça aujourd'hui, on va avoir une vision un peu plus simplifiée. À un moment donné, dans ce disque protoplanétaire, voici en gros ce qu'on peut dire. Vous avez donc le Soleil qui est déjà formé au centre, vous avez l'essentiel du disque autour qui est du gaz, c'est toujours de l'hydrogène et de l'hélium à presque 99%. Tout ce qui n'est pas du gaz, c'est moins de 1%. Tout le reste de la matière, matière solide, des grains, des silicates, des roches, du fer, c'est 1%. Alors évidemment, dans ce disque, les températures sont extrêmement diverses et variées. Très près du Soleil, il fait extrêmement chaud. Plus vous vous éloignez du Soleil, plus il fait froid. Donc, dans les régions vraiment les plus internes, il fait tellement chaud, il fait plus de 1300 degrés ici. À plus de 1300 degrés, les silicates, la matière solide, en gros, standard du système solaire, des astéroïdes, s'évaporent. Donc, tout est sous forme de gaz. Même les éléments les plus lourds sont sous forme de gaz, et si vous poussez un petit peu même plus la température, même le fer, par exemple, est sous forme de gaz. Au-delà de cette limite-là, entre là et là, les silicates se condensent, donc vous avez tout ce qui est les petites poussières rouges que vous voyez là, c'est de la matière solide, des silicates, de la matière rocheuse, pardon, et puis la température diminue, et vous tapez dans une autre limite de température qui est à 160 degrés Kelvin, qui est l'endroit où l'eau va se condenser en glace. Vous allez me dire, non, c'est nul, l'eau se condense en glace à 273 degrés Kelvin. Non, ça c'est l'eau qui se condense en glace sous une atmosphère terrestre. Dans le vide, dans le presque vide qu'il y a dans le système solaire, l'eau se transforme en glace à une température beaucoup plus basse, qu'on appelle la ligne des glaces. Alors souvent on utilise le terme anglais, snow line, nous c'est la glace, pour les anglais c'est de la neige, mais peu importe. Et au-delà de cette limite des glaces, eh bien, vous avez à la fois des roches, mais aussi maintenant, vous avez tous les petits points bleus là, qui sont des particules de glace solide. Donc, c'est ce qu'on a un peu vu déjà tout à l'heure quand on a fait le petit schéma où il y avait un petit bloup, une surdensité au niveau de la ligne des glaces. Vous avez plus de matière solide disponible dans les parties externes du disque parce que vous avez de la glace. Alors, ce que nous ont appris les observations les plus récentes, c'est que ce scénario, il n'est pas complètement uniquement théorique. Ce n'est pas juste des bouts de calcul dans des ordinateurs. Les disques protoplanétaires existent. On les voit par dizaines, on les voit par centaines, et on les voit de mieux en mieux avec tous les nouveaux instruments dont on dispose. Le télescope spatial, ici vous avez une image qui est un composite entre le télescope spatial Hubble, l'ancien télescope spatial, et le télescope millimétrique qui observe dans les ondes radio ALMA. Vous avez une zone de formation d'étoiles, et si vous regardez bien, vous avez, par exemple ici, vous avez une étoile qui vient de se former, l'étoile est au centre, là la bande noire au milieu, c'est le disque qui est opaque, et puis ici vous avez les deux jets dont j'ai parlé, au pôle de l'étoile. Ici, si vous zoomez dessus, vous avez un disque protoplanétaire, pris sur le fait, vraiment en flagrant délit, et dans lequel on pense toutes les petites bandes noires, les irrégularités, certaines d'entre elles sont dues au fait qu'il y a des planètes qui sont en train de se former et de sculpter ce disque. Alors, quand j'ai dit qu'on les voit par dizaines, j'exagère pas, on les voit vraiment par dizaines et par centaines, à la fois dans le domaine visible, de la lumière visible, et aussi dans le domaine millimétrique des ondes radio. Vous avez les dernières images, et puis évidemment maintenant avec le James Webb télescope, on est passé encore à une autre échelle, et dans les années qui viennent, ça annonce assez incroyable du point de vue de l'observation des disques protoplanétaires. Donc, disques protoplanétaires, 99% de gaz, des petites particules solides vont se condenser. Alors maintenant, ces petites particules solides, quand elles se condensent, elles sont minuscules. Elles font quelques microns, c'est tout petit. Comment on passe de ces petites particules micrométriques à des planètes qui font des milliers de kilomètres de diamètre? Là, on change un petit peu de processus. Schématiquement, on pense que ce qui va se passer, c'est que dans ce disque, les premières particules qui se condensent, les particules solides, vont bouger avec le gaz. Elles vont être emportées avec le gaz. Le gaz frotte tellement fort sur elles qu'elles vont être emportées avec le gaz dans des mouvements un peu aléatoires. Et de temps en temps, elles vont se rencontrer, ces particules. Si elles ne se rencontrent pas trop vite, elles vont pouvoir se coller les unes aux autres avec des forces de surface, par exemple comme la force de Van der Waals, et vont pouvoir s'agglutiner. Vous avez deux petits grains qui vont s'agglutiner, puis ils vont cogner avec un troisième grain, un quatrième grain, et vous allez comme ça avoir des objets solides qui vont croître. Alors ça peut se passer de manière assez complexe, avec des structures fractales, avec des espèces de monomères qui se mettent les uns sur les autres, mais plus ça va cogner, plus ces structures fractales, au bout d'une certaine taille, vont se défractaliser, alors c'est vraiment un néologisme assez horrible, mais devenir de plus en plus compactes, et vous allez arriver au bout d'un moment avec ce petit jeu de on se cogne, on s'attire, on colle. Vous pouvez former des objets de quelques millimètres, voire quelques centimètres, peut-être même vous allez aller jusqu'à des objets qui font à peu près 10 cm. Donc vous êtes passé de grains micrométriques à en gros ça. Maintenant, comment on passe de ça à une planète ? Là, c'est plus délicat. En fait, l'étape la plus difficile, c'est comment on passe de ça à, en gros, des corps qui ressemblent aux astéroïdes actuels, qui font quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Alors, en général, quand je présente ça, le meilleur moyen d'illustrer cette étape, c'est avec ce cartoon en anglais, je suis désolé, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. C'est vraiment l'étape que, jusqu'à présent, on adorait enjamber en faisant « Oh là là, on va dire que c'est résolu, on passe à l'étape suivante », mais on ne regardait pas trop en détail parce qu'on ne comprenait pas trop comment ça pouvait marcher. En fait, on a un problème. Dès que vous avez formé des corps qui font quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, il faut quand même que j'accélère un petit peu, quelques dizaines de centimètres, eh bien, il y a un problème. Ce qu'on appelle la barrière du mètre, qu'on devrait plutôt appeler la barrière du centimètre. Alors voilà, ça c'est un graphe pour faire sérieux, pour montrer que je peux vous montrer des graphes techniques. La barrière du centimètre, en gros, c'est quoi ? Quand des corps qui font en gros cette taille-là se sont formés dans le disque protoplanétaire, ils commencent à être suffisamment gros pour pas faire exactement ce que le gaz a envie qu'ils fassent. Tant qu'ils sont tout petits, ils sont coincés dans le gaz, ils bougent exactement avec le gaz. Et donc, en fait, quand ils cognent d'autres particules qui bougent exactement comme le gaz, ils vont cogner à des vitesses très faibles et ils vont coller. Dès que ça devient un peu plus gros, on appelle ça se découpler du gaz, ils vont commencer à vivre leur vie. Et ils ne vont plus forcément bouger à la même vitesse que les autres particules qui font cette taille-là. Oui, je vais faire attention, il y a de l'eau là-dedans. Ils vont se cogner à une vitesse plus forte. Et c'est ce qu'illustre ce graphe. Vous avez ici, alors, la taille... Alors, attendez, où est ma flèche ? Elle n'est plus là, elle est là. Vous avez ici la taille en mètres de ce qu'on appelle l'impacteur, et ici la taille en mètres de l'impacté, deux objets, voilà. Et vous voyez que plus les objets sont petits... plus c'est bleu, et donc, mass gain, on gagne de la masse, les objets se collent, parce qu'ils ne se cognent pas très vite. Mais dès que les objets sont gros, dans toute cette région-là, là, c'est rouge et jaune, rouge c'est pas bon, ici, c'est que vous avez une perte de masse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Les deux objets cognent beaucoup trop vite pour coller, et il se passe en gros, ce que j'ai illustré dans ce schéma-là, il se passe plutôt ça. Et le problème, c'est que ça paraît quasiment inévitable. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre problème, encore pire, c'est que le fait que vous soyez découplé du gaz fait que, au lieu de bouger avec le gaz, vous allez voir en fait un vent de face. Le gaz, c'est une espèce de vent de face, comme si vous étiez dans un voilier avec un vent de face. Et le gaz va frotter sur vous, va vous ralentir, va vous faire perdre de l'énergie de rotation. Et c'est toujours la même histoire, quand vous perdez de l'énergie de rotation, vous allez vous rapprocher de l'étoile. Vous allez migrer vers l'étoile, et ça peut aller très vite. Un objet de quelques dizaines de centimètres ou de quelques mètres, en quelques milliers d'années, il va être complètement englouti sur l'étoile. Donc on perd toute la masse. Alors comment on fait ? On est là, on est sur une planète, il y a d'autres planètes. Quelque part, elle a dû marcher, la formation planétaire, mais comment on passe cette étape du mètre et du centimètre ? Alors pendant très longtemps, on n'avait pas vraiment d'idées satisfaisantes. Le scénario qui tient la corde aujourd'hui, alors c'est très compliqué, c'est ce qu'on appelle le scénario d'instabilité de cisaillement, streaming instability. En gros, je vous la fais courte, si dans votre disque de gaz, il y a des inhomogénéités, des endroits où il y a un peu plus de gaz, qu'est-ce qui se passe ? Ces endroits-là vont avoir la capacité de plus ralentir, de plus faire frotter les particules. C'est d'amener les particules à se comporter plus comme le gaz. Ensuite, les particules se comportant plus comme le gaz vont moins frotter sur le gaz, donc elles vont, au lieu de tomber sur l'étoile, elles vont ralentir leur chute vers l'étoile. Mais si elles ralentissent leur chute dans l'étoile, ça veut dire que elles vont s'accumuler à un endroit dans le disque. Il va y avoir de plus en plus de particules solides. Et ensuite, il y a une rétroaction. C'est-à-dire que non seulement le gaz influe sur les particules, mais les particules, elles, vont attirer le gaz, vont emporter le gaz dans leur mouvement. Donc le gaz va lui se comporter encore plus comme les particules. Mais s'il se comporte encore plus comme les particules vont voir un vent de phase de moins en moins fort, vont donc ralentir encore une fois. Ça va refaire que le gaz va lui se comporter comme les particules. Vous allez faire une surdensité de gaz et de particules solides. Et cette surdensité peut être suffisante pour que vous accumulez beaucoup de matière solide dans un endroit assez restreint et tellement de matière solide que ça devient instable. Vous allez avoir une boule qui peut faire quelques kilomètres, quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres qui s'effondre sur elle-même et va créer instantanément, en quelques centaines d'années, à partir de cailloux qui font quelques dizaines de centimètres, va créer un objet qui peut faire plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines de kilomètres. Alors c'est très compliqué, c'est très difficile à simuler avec les simulations, mais je ne rentre pas dans les détails, il semble qu'on ait une preuve observationnelle que ce mécanisme marche. Cette preuve observationnelle, vous allez me dire, il n'y a vraiment aucun rapport, mais si, il y en a un. C'est quand on regarde les objets de Kuiper dans la ceinture de Kuiper qui est au-delà de l'orbite de Neptune. On a beaucoup d'objets de Kuiper qui vivent en couple, en paire, des objets binaires, et c'est exactement ce que prédit le scénario d'instabilité de cisaillement. Ça serait une des preuves les plus marquantes que ça marche. Donc on a formé des corps qui font quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, qu'on va à partir de maintenant appeler des planétésimaux. La suite de l'étape est peut-être un peu plus simple conceptuellement. Évidemment, des corps qui font plusieurs kilomètres, quand ils se cognent, ils ne vont pas coller à cause des forces de Van der Waals. Ils ne vont pas coller parce que... Non, ce qui va faire que ces corps vont coller les uns aux autres, cette fois-ci, c'est leur gravité. C'est que ces corps sont suffisamment gros pour que, quand ils se rencontrent, s'ils ne se rencontrent pas trop vite, c'est toujours la même histoire, ils vont se coller les uns aux autres par rester soudés par leur gravité. Mais encore une fois, il y a un problème de vitesse. Il ne faut pas cogner trop vite. Si vous ne cognez pas trop vite, voilà ce qui se passe. Vous restez soudés. Si vous cognez trop vite, il se passe plutôt ça. Et quand je dis pas trop vite, c'est vraiment pas trop vite. Pour que des corps de quelques kilomètres s'attirent les uns les autres, il ne faut pas que leur vitesse à laquelle ils cognent dépasse en gros ce qu'on appelle la vitesse de libération à la surface du corps. Et en gros, c'est quelques mètres par seconde. C'est la vitesse de quelqu'un qui court. Il ne faut pas aller beaucoup plus vite que ça. Donc, il faut un environnement dynamiquement quand même assez calme. Les modèles montrent que, coup de chance, cet environnement dynamiquement assez calme a l'air de se réaliser. Et ça, c'est une simulation numérique, c'est le résultat d'une simulation numérique. On pense qu'on passe assez vite, finalement, d'une situation où on a plein de planétésimaux qui font à peu près la même taille, à une situation où, localement, vous allez avoir un corps qui va dominer, sur lequel va se focaliser l'accrétion. En fait, c'est un système absolument pas démocratique, on l'appelle d'ailleurs le système oligarchique. C'est que si vous avez un corps qui est, pour des raisons X ou Y, un peu plus gros que les autres au début, il va attirer plus de planétésimaux sur lui, il va devenir plus gros, donc il peut les attirer encore plus, il va devenir encore plus gros, il va en attirer encore plus, c'est ce qu'on appelle un effet boule de neige, et ça peut former, en quelques dizaines de milliers d'années, un objet qui peut faire la taille d'un gros astéroïde, par exemple 500 km, 1000 km. Ça va très vite. Alors, c'est pas aussi simple que ça. On pense qu'en fait, il y a quelques problèmes avec ce scénario. Par exemple, avec ce scénario-là, il est impossible d'expliquer pourquoi les planètes géantes sont aussi grosses que ça et pourquoi elles ont pu se former aussi vite, voire même plus vite, que les planètes telluriques. On n'arrive pas à former des planètes géantes qui contiennent 300 masses terrestres de gaz et 30 masses terrestres de matière solide. On ne voit pas comment ça marche avec ce scénario. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, il y a des gens qui ont inventé un scénario encore... Alors, un petit peu compliqué, qu'on appelle l'accrétion caillou, l'accrétion pebble. Je ne rentre pas dans les détails. En gros, ça dit que si vous formez, je ne veux pas devenir trop technique, si vous formez un corps qui domine un petit peu localement, il va manger tous les corps qui sont autour de lui, mais pour les manger plus facilement, il va utiliser le fait qu'il reste encore du gaz partout. Tout le monde baigne dans le gaz. Et donc, quand il attire des corps vers lui, ces corps vont frotter dans le gaz de plus en plus fort. Le gaz va les faire ralentir et va les faire tomber préférentiellement sur le corps qui est déjà plus gros. Je peux aller dans les détails si vous voulez après dans les questions. Croyez-moi, sur parole, ça marche au moins dans les ordinateurs. On peut accélérer l'accrétion des petits corps sur les gros corps avec cette accrétion pebble, l'accrétion caillou. Et ensuite, dernière étape, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une situation où vous avez quelques dizaines, quelques centaines d'embryons planétaires, des machins qui font la taille de la Lune, peut-être même jusqu'à la taille de Mars, vous en avez quelques dizaines, on va dire, dans le système solaire interne. Et ensuite, c'est un grand jeu de massacre. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, ces embryons deviennent suffisamment gros pour se perturber les uns les autres. Et quand ils se perturbent les uns les autres, ils vont avoir des rencontres à des vitesses très élevées, des rencontres assez violentes, voire très violentes, un jeu de massacre dans lequel seuls les plus forts vont survivre. Les plus petits, ils vont être soit désintégrés, soit accrétés par les plus gros. Et donc, on pense qu'en une échelle de temps de quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'années maximum, il y a ce grand jeu de massacre, ne laisse, alors là c'est une simulation numérique qui est des années 90, donc c'était l'esthétique de l'époque. Si vous partez d'une situation où vous avez plein d'embryons, eh bien vous avez, au bout de quelques millions d'années, vous arrivez à une situation où vous avez formé trois planètes, par exemple, dans ce cas-là. C'est un jeu de massacre qui est dû schématiquement aux perturbations gravitationnelles que les embryons exercent les uns sur les autres. Et on pense que c'est pendant ce jeu de massacre qu'a eu lieu la dernière étape de l'histoire de la Terre, qui a donné naissance à la formation de la Lune, c'est-à-dire le dernier gros impact dans l'histoire de la Terre, avec cette protoplanète qu'on appelle Theia, qui peut-être faisait la taille de Mars, qui a percuté la Terre, qui s'est désintégrée, a désintégré une partie de la Terre, a créé un disque de débris autour de la Terre, et dans ce disque de débris s'est formé notre satellite, la Lune. Là, il faut vraiment que j'accélère. Donc, jusqu'à présent, ce dont je vous ai parlé, c'était comment former des planètes telluriques, en gros. J'ai pas trop évoqué les planètes géantes. Les planètes géantes se forment à la fois un peu pareil et à la fois pas du tout pareil. Il y a des défis spécifiques pour former des planètes géantes. En gros, il faut accréter beaucoup plus de matière solide. Il faut accréter énormément de gaz. Il faut accréter du gaz sur Uranus et Neptune, mais beaucoup moins que sur Saturne et Jupiter. Et il faut faire tout ça en moins de 10 millions d'années. Parce que oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que les disques protoplanétaires qu'on observe par dizaines, par centaines, autour de nous dans la galaxie, ils sont jamais plus âgés que 10 millions d'années, en gros. Au bout de 10 millions d'années, l'essentiel de leur masse, c'est-à-dire le gaz, disparaît. On le sait, c'est observationnel. Donc, si vous voulez former des planètes géantes, vous avez 10 millions d'années max. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on a un peu révisé la manière dont on voyait l'intérieur des planètes géantes. Alors, aujourd'hui, on pense que notamment Jupiter, a un cœur pas solide, mais un cœur un peu diffus, ça devient de moins en moins solide, ça se balade, on pense que c'est dû au fait que Jupiter a reçu un très gros impact. Je ne rentre pas dans les détails. Le scénario standard pour former des planètes géantes ressemble un peu au scénario standard pour former les planètes telluriques. Vous avez formé vos planétésimaux, vous avez localement un planétésimal qui est un peu plus gros que les autres, il attire les petits vers lui, il devient plus gros, et au bout d'un moment, et c'est là la différence avec les planètes telluriques, au bout d'un moment, il devient tellement gros, 10 ou 15 masses terrestres, qu'il est capable d'accréter tout le gaz qu'il y a autour de lui dans le disque protoplanétaire. Ce gaz commence à s'accréter, et quand il a accrété plus qu'une fois sa masse en gaz, ça devient instable, ça s'effondre, et en quelques centaines, quelques milliers d'années, vous accrétez des centaines de masses terrestres de gaz. Et vous formez quelque chose avec un cœur solide et tout le gaz que vous avez accrété. Alors ça, c'est l'équivalent de la pierre de Rosette. C'est une simulation des années 90, la première qui a essayé de montrer, je ne rentre pas dans les détails, comment tout ça se passe séquentiellement. Tout ce que vous pouvez éventuellement retenir, c'est que l'accrétion finale du gaz se passe ici sur un temps infiniment court. En fait, en quelques milliers d'années, vous accrétez quasiment toute la masse de gaz qu'il y a sur la planète géante. Alors ça, je vais sauter, c'est juste pour vous montrer qu'on pense que pour former Jupiter et Saturne, il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut passer par l'accrétion caillou, l'accrétion pebble. Mais il faut quand même mentionner le fait que pour former les planètes géantes, il y a quand même une partie de la communauté, petite, mais qui soutient un scénario différent. Un scénario dans lequel les planètes géantes se forment, non pas étape par étape, comme les planètes telluriques, on fait des petits grains, des cailloux, des rochers, etc., mais se forment directement dans le disque protoplanétaire lui-même. Dès le départ, vous avez des grandes régions du disque qui vont devenir instables dans le disque de gaz et vont en fait former un petit peu comme des mini-étoiles. Un peu, c'est un processus de formation comme celui des étoiles localement ou des petites étoiles. Vous allez former une surdensité et dans cette surdensité, vous allez former eh bien, directement une planète géante, toute faite. Alors, dans certaines simulations numériques, ça apparaît très très bien. Dans un ordinateur, c'est souvent facile à faire. En réalité, c'est quand même très compliqué. Parce que pour former une planète géante comme ça, le problème, c'est que dès que votre portion de gaz s'effondre sur elle-même dans votre disque, elle devient de plus en plus chaude. Et la chaleur crée une pression qui va résister à l'effondrement. Et il faut évacuer cette chaleur. Et on a un gros problème pour évacuer cette chaleur. Donc, on a du mal à voir comment ça marche dans le système solaire. Mais peut-être que ça marche sur les systèmes extrasolaires. Alors, ça se complique encore un peu que quand vous formez une planète géante, comme elle baigne dans le disque de gaz, comme elle baigne dans le disque de gaz, comme elle baigne dans le disque de gaz, elle va frotter aussi avec le gaz. Elle va interagir avec le gaz environnant. Alors, c'est pas comme tout à l'heure, on a vu que la barrière du mètre, elle ne voit pas un vent de face, etc., mais elle va interagir avec la masse de gaz qui est à l'extérieur de son orbite et la masse de gaz qui est à l'intérieur de son orbite. Et dans la plupart des cas, ça va la faire. Il y a un échange de moments angulaires, d'énergie de rotation, qui va faire que la planète va se rapprocher, va migrer vers l'étoile. Le problème, c'est que ça marche trop bien. Une planète de masse terrestre, par exemple, on peut montrer qu'en moins de 200 000 ans, elle va tomber sur le Soleil. Alors, si jamais elle a le bon goût de devenir suffisamment massive avant que tout ça arrive, elle peut migrer un peu moins lentement. Si on dépasse 10 fois la masse de la Terre, c'est la migration de type 2, ça peut un petit peu se calmer, mais une planète de la masse de la Terre, elle a vraiment le mauvais goût de tomber directement sur le Soleil. Alors, pourquoi ce n'est pas arrivé dans le système solaire ? On pense que c'est parce que, on en revient à ces modèles très compliqués que je vous ai montrés tout au début de ma présentation. On pense qu'il y a des irrégularités dans la manière dont sont distribuées la matière solide et le gaz dans le disque. Ça crée ce qu'on appelle des pièges planétaires, des endroits avec des surdensités, des sous-densités, où les migrations s'arrêtent et puis peuvent même repartir dans l'autre sens, se calmer, etc. Donc on pense que c'est ça qui fait que, c'est ce qu'on appelle un U-turn en anglais, vous pouvez avoir un arrêt de la migration, parce que le disque a une structure extrêmement complexe, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais on pense que c'est ça qui peut arrêter la migration. Alors je ne peux pas ne pas parler d'un mécanisme qui est censé se passer à cette époque-là, dans le système solaire, qui est lié à cette migration des planètes, qu'on appelle le Grand Tack en anglais. Quand les planètes se sont formées, notamment les planètes géantes, elles baignent encore dans un disque de gaz. Elles vont interagir avec ce disque de gaz et elles vont migrer. Et on pense, dans ce scénario du Grand Tack, que Jupiter se forme en premier, elle commence à migrer vers l'intérieur du système solaire et elle va s'approcher très très près. Jupiter, elle est là. Regardez, elle part à peu près à 4 unités astronomiques. Regardez jusqu'où elle va. Jusqu'à presque l'orbite de Mars. Elle migre, mais à un moment donné, Saturne va la rattraper, et à un moment donné, ces deux planètes vont arriver dans une configuration qu'on appelle une situation de résonance. Jupiter fait deux tours pendant que Saturne en fait un, et quand elles sont bloquées en résonance, pour des raisons, croyez-moi sur parole, ça marche, hop, elles repartent dans l'autre sens, d'où elles étaient venues. Et donc ce grand axe, c'est une espèce de migration vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, qui met un bazar absolument astronomique, c'est le cas de le dire, dans le système solaire interne et notamment dans la ceinture d'astéroïdes. Et on pense que c'est ça qui expliquerait que Mars est une planète assez petite, parce que tous les modèles qui invoquent pas ce grand tack ont un problème, c'est qu'ils forment à la place de Mars une planète qui est plus grosse que la Terre. Et c'est ça qui expliquerait aussi que la ceinture d'astéroïdes aujourd'hui, elle est très vide. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, mais à un moment donné, je vous ai dit que le disque de gaz se disperse. Comment il se disperse et pourquoi ? C'est un peu compliqué. C'est à la fois dû au rayonnement ultraviolet de l'étoile qui vient de se former, le Soleil dans ce cas, au rayonnement ultraviolet des autres étoiles. Ce rayonnement ultraviolet transporte de l'énergie. Il est capable, dans certains cas, quand il tape dans les atomes d'hydrogène, de les exciter, de les faire bouger à une vitesse qui est supérieure à leur vitesse orbitale. Ça va les balayer vers l'extérieur. C'est même capable, à un certain moment, de créer un trou dans le disque. Le disque va être coupé en deux. Et une fois qu'il est coupé en deux, eh bien, la partie intérieure du disque est complètement vidée. Le trou devient plus gros. Le rayonnement de l'étoile va... Oh là là, excusez-moi. Le rayonnement de l'étoile va être encore plus efficace pour balayer les atomes d'hydrogène et les éjecter du disque de gaz. Et la combinaison de ces deux effets fait que, eh bien, vous arrivez à vous débarrasser du gaz en quelques millions d'années. C'est un petit peu compliqué, mais en gros, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors, les choses ne sont pas finies quand même. Une fois que le gaz est parti, qu'est-ce qui se passe ? D'un seul coup, vous avez un système dans lequel vous avez des planètes déjà formées qui ne sont pas à leur place actuelle, on pense. Et il reste aussi plein de planétésimaux qui, ben, c'est comme, voilà, vous avez des Legos, vous construisez votre maison, il reste plein de Legos que vous n'avez pas utilisés, mais ils sont toujours là, les petites pièces. Vous avez des planètes, des planétésimaux qui n'ont pas servi, et d'un seul coup, le gaz est parti. Le gaz, il avait un effet un peu stabilisateur, comme avec tout le monde. D'un seul coup, c'est l'anarchie, c'est le chaos, les planètes peuvent se perturber sans être ralenties par le gaz. Vous avez, on pense, une grande instabilité qu'on appelle l'instabilité précoce qui a lieu, qui fait bouger les planètes géantes, qui les fait à la fois éjecter des particules qui vont créer la ceinture de Kuiper au-delà de Neptune et qui vont à nouveau faire le bazar dans la ceinture d'astéroïdes. Et on pense que la structure de la ceinture d'astéroïdes aujourd'hui, ça serait un petit peu le juge de paix pour essayer de voir l'importance de ces mécanismes un peu compliqués que je viens de vous raconter dans les derniers transparents. Est-ce que le grand TAC, à lui tout seul, est capable d'expliquer la ceinture d'astéroïdes telle qu'on la connaît ? Ou est-ce que ça serait cette instabilité, une fois que le gaz s'est dispersé, qui suffit ? Ou alors, il y a un scénario un petit peu intermédiaire dans lequel, ben, dès le départ, en fait, il n'y avait pas grand monde dans la ceinture d'astéroïdes à cause du fait que l'accrétion caillou, la pebble, elle ne serait pas efficace une fois qu'on dépasse la position actuelle de l'orbite de Mars. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, ça c'est vraiment, ça sort du four, c'est des travaux actuels sur la recherche planétaire. Allez, j'ai passé beaucoup trop de temps là, je vais essayer d'accélérer un peu, mais on en arrive à la partie maintenant qui est comment tout ce que je viens de vous raconter là passe le test des systèmes exoplanétaires. Pour l'instant, je vous ai raconté comment on forme le système solaire. Déjà, on a du mal, mais qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, on a déjà vu qu'il y a une partie, bon, on l'a déjà vu, en observant les systèmes exoplanétaires, on voit tout d'abord des disques protoplanétaires. Il n'y a pas de problème, on les voit, ils existent. Maintenant, alors, chaque fois que vous faites une présentation, qu'il y a une présentation sur les exoplanètes, il y a ce graphe-là qui arrive à un moment donné. Ça, c'est, au jour d'aujourd'hui presque, toutes les exoplanètes qu'on connaît. Classées avec ici la distance à leur étoile, en unité astronomique, donc là, par exemple, la Terre serait là, une, et ici, leur masse en masse de Jupiter. Et ce qu'il faut bien montrer, c'est par exemple, de où seraient la Terre et Jupiter sur ce, voilà, sur ce portrait de famille des exoplanètes. Donc là, vous allez dire, c'est quand même l'arnaque, ça fait 45 minutes qu'il parle, et il nous a expliqué comment former la planète verte et la planète rouge qui correspondent quasiment pas à ce qu'on a observé pour les exoplanètes. Pour l'instant, on a observé quelques exo-Jupiter, mais pas beaucoup, et on n'a pas observé d'exo-Terre au sens strict du terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que tout ce que je viens de vous raconter, c'est vraiment une exception, un cas vraiment hyper particulier ? La majeure partie des systèmes planétaires ne ressemble pas du tout à ça. Non. Ça, Guillaume le sait bien mieux que moi. Lui, il observe vraiment des exoplanètes. Moi, j'attends que les gens comme Guillaume me disent où elles sont, et puis je fais mes petits calculs, et puis en général, ça ne marche pas, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ce qu'il faut voir là, c'est que ce que vous avez, c'est un portrait de famille qui est très, 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 très biaisé par les limitations techniques des instruments qu'observent les exoplanètes. Il est beaucoup plus facile d'observer, par exemple, ce qu'on appelle ici des Jupiter chauds, c'est-à-dire des planètes géantes près de leur étoile, que des petites planètes plus loin. Donc, ça ne reflète pas la réalité, ça reflète une réalité qui a été modulée par les limitations de nos instruments astronomiques. En général, quand je parle de ça, j'essaie de donner une... Quand je parle de ça dans les classes des écoles primaires, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, supposons que vous jouiez à un jeu, qui est, vous regardez par la fenêtre, et vous allez compter tous les animaux qui passent par la fenêtre. Et chaque fois que vous voyez une mouche, vous mettez une mouche. Chaque fois que vous voyez, je ne sais pas, une chauve-souris, vous mettez une chauve-souris. Vous mettez un pigeon, vous cochez un pigeon. Et puis, au bout d'une demi-heure, on fait le bilan et on regarde quels sont les animaux les plus nombreux que vous avez vus passer derrière votre fenêtre. Donc, trois quarts des cas, une fois je l'ai fait vraiment, vraiment, dans une classe qui était venue à l'observatoire, on a fait le test, ceux qui gagnent, c'est les pigeons. les pigeons dominent toujours. En général, on avait, je crois, 25 pigeons et puis on avait 3 mouches. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 8 fois plus de pigeons que de mouches ? Non ! Parce que chaque fois qu'un pigeon passe, vous le voyez. Chaque fois qu'une mouche passe, c'est très dur de la voir. Donc, pour en venir là, ici vous avez les pigeons, ici vous avez les mouches. Ça, c'est très 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 dur à voir. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de partir de ça et de reconstruire une réalité derrière ? C'est-à-dire, par exemple, si on sait qu'on a une chance sur 100 de voir une mouche, ben, le fait qu'on ait observé 3 mouches, ça veut dire qu'en réalité, il y en avait 300. On peut s'amuser à faire ce genre de truc, ça s'appelle débiaiser, et remonter à la vraie abondance des planètes. Et là, on va s'apercevoir qu'en fait, les planètes les plus nombreuses, c'est des petites planètes. Les petites planètes, alors, petites planètes, on va appeler ça des super-terres, c'est-à-dire des trucs qui font un peu plus que la taille de la Terre, parce que des terres-terres, c'est toujours très difficile à voir. Il y a même des gens qui poussent plus loin et qui essayent de... Alors c'est vraiment très compliqué, qui essayent de, pour chaque type de planète, avec sa période orbitale et sa taille, de voir ben, quel est le pourcentage d'étoiles qui contiennent ce type de planète. Alors vous voyez qu'il y a plein de cases grises ici, parce que ça c'est les petites planètes loin de leur étoile, et celles-là on ne sait pas bien les contraintes. En gros, si on s'amuse au jeu que je viens de faire avec les pigeons et les mouches, on arrive aux conclusions suivantes. Les Jupiter chauds, c'est-à-dire des planètes géantes très très près de leur étoile, qui étaient toutes les planètes, les exoplanètes qu'on observait au début, dans les années 90, eh bien, ne représentent finalement que 1% des exoplanètes, de la population débiaisée d'exoplanètes. Les super-terres, c'est-à-dire des trucs qui font quelques tailles de Terre et moins, on pense qu'elles représentent, même en étant pessimiste, de 30 à 50% qui sont présentes dans 30 à 50% des étoiles. Pardon. Les planètes dans la zone habitable, c'est-à-dire que où il ferait une température à peu près comparable à celle qu'il y a sur Terre, on pense qu'il y en a peut-être entre 10 et autour de 10 à 30% des étoiles. Des géantes gazeuses comme Jupiter, là c'est intéressant, seulement 10%. Donc le système solaire, en fait, ce qu'il a de particulier, c'est pas vraiment qu'il y a une Terre, c'est plutôt qu'il y a un Jupiter. Ça c'est bizarre. Ça n'arrive que dans 10% des cas, et puis il y a des planètes vraiment bizarres, j'ai oublié d'en parler, c'est ces machins-là. C'est des planètes qui sont 10 fois, voire 20 fois, voire 100 fois plus loin que Jupiter de leur étoile, et qui sont des planètes géantes. Et elles, on pense qu'elles représentent, en gros, allez, 1% des cas. Et puis, il y a 8% des planètes qui sont dans les systèmes binaires. Alors, comment former les Jupiters chauds ? Là, je vais vraiment aller au pas de course. Ben là, on pense que c'est facile. Ben, c'est justement, on l'a vu tout à l'heure, la migration des planètes dans le disque. Vous avez une planète qui migre dans le disque. Elle se forme loin de son étoile, elle se rapproche, et puis à un moment donné, elle s'arrête parce que bah, le disque protoplanétaire s'arrête, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de particules, il n'y a plus d'interaction avec la matière, et la planète s'arrête à une distance vraiment très 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 près de son étoile. Le problème, évidemment, c'est que ça marche trop bien. Donc il faut revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui peuvent bloquer la migration d'une planète géante qui fait que les Jupiter chauds restent des exceptions et pas la règle. Alors il y a des gens qui sont amusés à faire des scénarios un peu compliqués qui, en fonction de la masse initiale d'une planète et de sa position initiale autour d'une étoile, vont suivre le destin de ces planètes. Alors là, vous reconnaissez des mots peut-être... Je croyais qu'il y avait l'accrétion Pebble, rocheuse, mais elle n'y est pas. Ah si, elle y est. Suivant où on part et la taille qu'on fait initialement, les planètes géantes, c'est compliqué, mais je vais essayer de vous résumer, vont avoir des destins extrêmement différents. Par exemple, cette planète-là, elle a un destin qui fait que le temps passe comme ça. Là, voilà, elle grossit, l'accrétion Pebble, les cailloux. Là, elle devient suffisamment grande pour faire ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est accréter d'un seul coup tout le gaz qui est autour. Le problème, c'est qu'elle a déjà migré vers l'intérieur dans une zone où le gaz est très dense et boum, elle tombe sur l'étoile. Celle-là, il lui arrive presque la même chose. Celle-là, vous voyez qu'elle termine à peu près à la position de Uranus ou Neptune aujourd'hui. Et puis celle-là, elle termine à peu près à la position de Neptune, suivant sa masse. Et vous voyez qu'elle, elle s'arrête avant d'avoir pu accréter massivement le gaz qui est autour d'elle. Elle ressemble un peu à un Neptune ou à un Uranus avec une dizaine de masses terrestres de solides. Et puis... un peu de gaz, mais on n'a pas eu le temps d'accréter tout le gaz qui était là avant que le gaz disparaisse. Ensuite, c'est vraiment du pinaillage, mais c'est très important pour les gens qui font les exoplanètes. il y a deux types d'exoplanètes qui font presque la même taille, ce qu'on appelle les super-terres, et les autres qu'on appelle les mini-Neptunes. À la frontière entre les super-terres et les mini-Neptunes, ce qui change, c'est qu'on pense que les super-terres sont essentiellement rocheuses, alors que les mini-Neptunes auraient gardé encore une partie de gaz non négligeable. Et on pense que, justement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence un petit peu dans l'endroit où elles se forment, la taille du noyau solide qu'on a accrété, qui fait qu'il y a un processus de chauffage pour les planètes les plus petites et les plus proches du Soleil, qui va être capable de balayer le gaz avant qu'il ait eu le temps d'être accrété sur les mini-Neptunes, qui sont peut-être un peu plus grosses et un peu plus lointaines. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Et puis, il reste un autre problème, c'est comment on forme ces géantes très distantes qu'on observe. D'ailleurs, c'est, entre parenthèses, les seules planètes qu'on observe vraiment. Sur les 5000 et quelques exoplanètes qu'on connaît aujourd'hui, l'écrasante majorité n'a jamais été vue, vous le savez sans doute. Elles ont été détectées indirectement en regardant le mouvement de l'étoile ou en regardant des éclipses de la planète passant devant l'étoile, mais elles n'ont pas été vues sur des images. Les seules exoplanètes qui ont vraiment été vues, c'est les exoplanètes qui font partie de ce groupe des géantes très distantes, qui sont à 10 fois, 20 fois, 50 fois la distance de Jupiter de leur étoile. Et voilà un des exemples les plus célèbres, 4 planètes autour de l'étoile HR 87-99. Et ces planètes géantes, très distantes, on ne voit pas du tout comment les former avec tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à présent. Le scénario dans lequel vous formez d'abord un cœur rocheux, des planétésimaux qui se cognent, vous accrétez le gaz ensuite, on ne voit pas comment ça marche. Ici, on va dire que la plupart des chercheurs pensent que c'est l'illustration du scénario alternatif de formation des géantes qui se forment directement dans le disque, un peu comme des mini-étoiles, il n'y a pas de S à mini, comme des mini-étoiles directement dans le disque, par instabilité gravitationnelle dans le disque. Parce que plus vous êtes loin de l'étoile, plus il est facile d'avoir des instabilités dans le disque. Parce que plus il fait froid, donc moins la pression résiste à la chute d'un morceau de gaz sur lui-même. Et on pense que c'est comme ça qu'on forme les géantes les plus distantes. Ce qui m'amène à un autre problème, c'est que si vous avez une planète géante qui se forme comme une mini-étoile loin dans un disque, qu'est-ce qui la distingue d'une étoile ? C'est quoi la différence entre une petite étoile et une grosse planète ? Est-ce que c'est la manière dont elles se forment ou est-ce que c'est leur structure aujourd'hui ? Alors, la plupart des astrophysiciens s'accordent sur le fait que ce qui distingue une planète d'une étoile, c'est le fait qu'une étoile a en son cœur des réactions de fusion. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune... Et les réactions de fusion, elles s'enclenchent pour un objet qui a plus que 75 masses de Jupiter. Entre 13 et 75 masses de Jupiter, vous êtes dans une espèce de purgatoire stellaire, des limbes. Vous n'êtes pas une planète, vous n'êtes pas non plus une étoile, vous êtes ce qu'on appelle une naine brune, c'est-à-dire qu'il y a un peu de fusion qui se passe à la périphérie de votre surface, mais vous n'êtes pas stricto sensu une étoile, mais vous n'êtes pas non plus une planète où il n'y a aucune fusion du tout. Et à moins de 13 masses de Jupiter, vous êtes, par définition, une planète. Vous voyez bien que cette définition-là, là, c'est des échelles réelles, les unes par rapport aux autres. Vous voyez bien que ces définitions-là, a priori, elles n'ont rien à voir avec la manière dont se forment ces corps. Il n'y a aucune raison qu'un corps de 13 masses de Jupiter se forme uniquement d'une certaine manière et qu'un corps de 14 masses de Jupiter se forme d'une manière complètement différente. Il y a forcément des recoupements. Est-ce qu'on pense que peut-être les plus grosses planètes, qui sont les plus lointaines, se forment un peu comme des mini-étoiles ? Mais peut-être qu'aussi certaines toutes petites étoiles se forment un peu comme des planètes. Si vous revenez à la simulation numérique que j'ai montrée avec le nuage dans lequel s'effondrent toutes ces étoiles qui se forment, qui interagissent, vous avez les grosses étoiles qui, on pense, se forment, comme je vous ai expliqué tout au début, par directement dans le nuage de gaz, des surdensités, et on pense que les étoiles les plus petites se forment un peu comme les planètes géantes, ici dans cette simulation, dans un disque qui s'est déjà formé autour d'une grosse étoile, il peut y avoir des petites étoiles plus petites qui se forment par fragmentation, instabilité dans ce disque. Elles se forment un peu comme des planètes ou des planètes se forment comme des mini-étoiles. Donc la frontière entre les planètes et les étoiles n'a aucune raison de correspondre à la frontière entre comment se forment des planètes et comment se forment des étoiles. Il n'y a pas de raison que ça coïncide. Et on pense que ça ne coïncide pas. Et enfin, je suis en retard, donc je satisfais mes deux promesses. Le dernier transparent, c'est ma recherche et je suis en retard. Voilà. 8% des exoplanètes connues à ce jour sont dans des systèmes binaires. Alors on pourrait dire, ça fait à peu près 300, allez, ça dépend comment on calcule, peut-être même 400 exoplanètes. On pourrait dire, waouh, c'est beaucoup. En fait, non, c'est pas beaucoup. Parce que vous le savez peut-être, la manière la plus naturelle d'exister pour une étoile dans la galaxie, c'est d'être dans une binaire. À peu près 55% des étoiles sont dans des systèmes binaires, ou même triples, ou quadruples. De ce point de vue-là, le Soleil, c'est une exception. Alors, c'est 45% des cas, c'est pas une minuscule exception, mais c'est la minorité. Donc, on s'attendrait à avoir découvert 2500, 3000 exoplanètes dans des systèmes binaires. On n'en a découvert que 300 à 400. Pourquoi ? Alors, encore une fois, parce que on est limité par notre technologie. Dans un système binaire, et là, Guillaume le sait bien mieux que moi, dans un système binaire, il est beaucoup plus difficile de détecter une planète par les deux méthodes les plus courantes pour observer, pour détecter les planètes, parce que la deuxième étoile, un hasard pas possible, on ne sait pas très bien à quoi on a affaire, les faisceaux de lumière se mélangent, ça devient un petit peu compliqué. Donc, pendant les années 90 et les années 2000, dès qu'on avait une étoile dont on savait qu'elle était dans un système binaire, on la mettait de côté, on ne l'étudiait pas, on les écartait des grands surveys, oui, excusez-moi, je terminerai par un anglicisme encore, des grands programmes larges d'observation d'exoplanètes. Dès qu'on avait des binaires, on les éliminait. Alors maintenant, on ne les élimine plus, mais il faut savoir que quand même, les binaires ont été beaucoup, beaucoup moins étudiés que les étoiles, on va dire, classiques. Donc, ça, c'est vraiment les 300 ou 400 exoplanètes dans des binaires qu'on connaît. C'est vraiment une limite basse. Il y en a certainement beaucoup plus. Mais même parmi celles qu'on a détectées jusqu'à présent, il y a des trucs assez bizarres. Par exemple, on connaît une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine de systèmes d'exoplanètes dans des binaires où la séparation entre les deux étoiles est moins de 20 unités astronomiques. C'est-à-dire, en gros, la distance Soleil-Uranus. En gros, vous prenez le système solaire, vous enlevez Uranus, vous mettez une étoile à la place, et il y a quand même une planète géante à peu près au niveau de l'orbite de Mars ou de la ceinture d'astéroïdes. Alors déjà, j'espère que, même si vous n'avez rien compris, je suis au moins convaincu que ça, que c'est très compliqué de former des planètes dans le système solaire, à chaque étape il y a des problèmes. Donc, si en plus vous rajoutez une planète, une étoile au niveau de Uranus, ça met un bazar absolument cataclysmique. Et honnêtement, on ne comprend pas très bien comment ont pu se former ces planètes. Alors vous allez me dire, c'est juste quelques cas, mais c'est quelques cas problématiques, parce que est-ce que ces quelques cas à eux tout seuls ne peuvent pas remettre en cause tout le modèle standard ? Est-ce qu'on ne serait pas complètement trompé avec l'illustration que, dans certains cas, des planètes ont l'air de se former en dépit du bon sens, en dépit de ce que je vous ai expliqué là ? Alors, est-ce que c'est juste la partie émergée de l'iceberg qui nous montre que tout ce qu'on a fait est faux, ou est-ce que c'est vraiment des systèmes très, très, très spécifiques, très particuliers, dans lesquels le destin des planètes est tellement radicalement différent qu'on ne peut pas l'appliquer au reste des exoplanètes qui ont été découvertes. Et ça, c'est mon domaine de recherche à moi. Je n'ai pas de réponse, hein. On est des chercheurs, on n'est pas des trouveurs, donc je cherche, on est beaucoup à chercher là-dedans. C'est un domaine de plus en plus d'actualité, parce que de plus en plus on observe les binaires, on trouve de plus en plus de planètes dans les binaires, mais pour l'instant, le verdict n'est pas vraiment tombé. Il y a des gens qui pensent que il faut peut-être faire des ajustements dans le modèle standard pour former ces planètes-là. Il y a des gens qui pensent que, aujourd'hui, ces planètes qui sont dans les binaires qu'on voit aujourd'hui, eh bien, en fait, elles ne se sont pas formées à une époque où la binaire ressemblait à ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'elles se sont formées à un moment donné où la binaire était beaucoup plus écartée, et justement, au cours de cette histoire un peu mouvementée, vous vous rappelez, là, les étoiles se forment en groupe, elles interagissent les unes avec les autres, eh bien, la binaire, à force d'interagir avec d'autres étoiles, elle s'est resserrée de plus en plus, et on arrive à la situation actuelle où la planète s'est formée dans un environnement qui était assez tranquille, mais beaucoup plus tard dans son histoire, la binaire s'est rapprochée. Le compagnon stellaire s'est rapproché, mais c'est pas grave parce que la planète était déjà formée, elle était suffisamment grande pour que ça ne lui pose plus de problème. Parce que ces binaires, ces planètes grosses déjà formées dans les binaires, elles sont sur des orbites stables. Voilà, donc là j'ai vraiment fait au pas de course, j'ai vraiment débordé, j'ai fait tous les trucs pas bien que j'avais dit que je ferais. Je vais m'arrêter là, donc voilà, j'attends avec impatience ou pas vos questions.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Alors, pour ce grand panorama, y a-t-il des... Alors, je vais essayer de transcrire des questions qui peuvent être sur le chat. N'hésitez pas à en mettre d'autres sur le chat de YouTube. Je vais commencer par prendre une question dans la salle, s'il y en a. Je vais monter là-haut.
Merci beaucoup pour cet exposé. À quoi peut ressembler pour une planète dans un système binaire sa trajectoire ? Ça doit être un sacré bazar, du coup.
Alors, en fait, oui et non. Il y a un cas catastrophique, c'est qu'il y a des régions qui sont totalement instables. C'est-à-dire que si vous êtes, en gros, à mi-chemin entre les deux, c'est complètement instable. Mais si vous êtes suffisamment près de l'une ou de l'autre étoile, les orbites sont à peu près stables. Ce n'est pas trop chaotique. Par exemple, dans le système stellaire le plus proche de nous, Alpha du Centaure, est un système binaire, deux étoiles quasiment identiques au Soleil, séparées de 20 unités astronomiques. Bien, on n'a pas encore détecté de planète dans le système Alpha du Centaure, on a détecté sur Proxima du Centaure, mais Alpha du Centaure n'a pas détecté. Bien, si vous mettez une planète comme la Terre, à la distance de la Terre par rapport au Soleil, autour de l'une des deux étoiles, il n'y a aucun problème, elle est stable. C'est une orbite qui n'est pas si perturbée que ça, en fait. En fait, le problème dans les binaires, ce n'est pas tant que les planètes sont sur des orbites qui pourraient être instables et elles sont éjectées. Le problème, c'est former les planètes. Former les planètes, parce qu'il est beaucoup plus facile pour une planète de survivre une fois qu'elle est grosse que de se former quand elle est toute petite. Parce que pour empêcher l'accrétion de deux cailloux de quelques centimètres ou de quelques mètres, il suffit de pas grand-chose. Il suffit de secouer un tout petit peu, la vitesse est un peu trop forte, ils ne vont pas coller. Alors qu'une fois que vous avez une planète géante qui s'est formée, le seul moyen de l'éjecter, c'est une perturbation dynamique massive, et celle-là, ben, elle ne peut avoir lieu que dans des régions bien spécifiques entre les deux binaires.
Merci. Je vais poser une question, je vais transcrire une question qui est sur le chat de YouTube. La question, c'est pourquoi l'atmosphère qui est en contact avec le vide n'est pas aspirée par celui-ci ? Est-ce que tu pourrais nous dire quelques explications physiques sur ce qui fait qu'une planète a une atmosphère ou une autre planète n'en a pas ?
Bah alors, c'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en gros, l'atmosphère, c'est du gaz, c'est des molécules, elles ont une certaine température. Alors, je simplifie à mort, mais c'est en gros l'idée. C'est une certaine température. La température, c'est une agitation thermique, c'est un mouvement des particules. Eh bien, si vous avez une planète avec une masse très très faible, l'agitation thermique des particules, si elle devient très forte, eh bien, va excéder la vitesse de libération de la surface de cette planète, le gaz part dans le vide. Donc, un petit objet de la taille d'un astéroïde, de Cérès, ne peut pas garder une atmosphère, parce que l'agitation des molécules dans le gaz dépasse la vitesse de libération à la surface. Alors après, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi un autre phénomène dont on n'a pas parlé, c'est que vous avez ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire des particules ionisées émises par le Soleil. C'est un vent solaire extrêmement violent dont on est protégé sur Terre, en grande partie à cause du champ magnétique de la Terre, qui nous protège des particules les plus nocives, les plus massives. Mais par exemple, Mars, elle a une atmosphère, mais une atmosphère beaucoup plus ténue que celle de la Terre, et on pense que son problème, c'est que Mars avait une atmosphère dense au début, parce qu'on sait qu'il y avait de l'eau liquide, donc il y avait une atmosphère dense sur Mars. Donc, Mars était capable de garder son atmosphère. À un moment donné, comme elle est plus petite, l'effet dynamo qu'il y a sur Terre, bref, s'est arrêté. Le champ magnétique ne l'a plus protégé. Et donc, le vent solaire a pu balayer une grande partie de l'atmosphère de Mars. Donc, vous avez à la fois ce qu'on appelle l'échappement thermique et aussi le fait que le vent solaire peut balayer des particules de l'atmosphère d'une planète.
Merci. Y a-t-il d'autres questions, commentaires dans la salle, ici ?
Moi, j'avais une question par rapport au fait que vous aviez dit que Jupiter, c'était la première planète à s'être formée dans le disque protoplanétaire, ouais, et qu'elle s'était rapprochée du Soleil. Mais oui, comment ça se fait du coup qu'il n'y a que 10% des planètes, vous avez dit, dans tout l'univers qui étaient des planètes de type Jupiter, entre guillemets, alors que c'est les premières planètes en soi à s'être formées, enfin...
Alors, une explication possible, c'est une très bonne question. Une explication possible, ça serait ce que j'ai montré là. C'est-à-dire que vous voyez que le destin d'une planète, même qui s'est formée, qui au départ partait de la région de Jupiter, cette planète-là, par exemple, elle s'est formée à 5 UA de 5 unités astronomiques de son étoile, c'est là où est Jupiter. Son destin, c'est de finir mangée par l'étoile. Donc peut-être que ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, vous formez des planètes géantes. 10% de planètes géantes dans les systèmes planétaires, ça ne veut pas dire que 10% des systèmes planétaires forment des géantes. Peut-être qu'ils se forment systématiquement dans tous les systèmes planétaires, mais par exemple que dans une grande partie des systèmes planétaires, les géantes disparaissent par migration, par exemple, sur l'étoile. Par exemple. Ou peut-être qu'il y a des perturbations entre les géantes qui les éjectent. Donc nous, ce qu'on voit, c'est le résultat final, mais ce n'est pas forcément 10% de planètes géantes qui se sont formées à un moment donné. Attention, pardon, excusez-moi, j'ai parlé trop vite parce que j'étais déjà en retard. 10% de géantes gazeuses comme Jupiter. C'est-à-dire qu'on a vu des géantes qui sont beaucoup plus près de leur étoile, mais des géantes comme Jupiter, comme Saturne, à la distance où elles peuvent être gazeuses, etc. Enfin, elles peuvent être gazeuses partout, mais à la distance de Jupiter et de Saturne, on en a 10%. 10% de, on va dire, de planètes de type jovienne, c'est-à-dire qui ressemblent à Jupiter, à Saturne, etc. Là, je ne mets pas dans ce sac-là les Jupiters chauds, les planètes géantes qui sont plus près de leur étoile. 10% de planètes géantes à 5, 10, 15 unités astronomiques de leur étoile. Voilà. Des Jupiters à l'endroit où est Jupiter dans le système solaire.
Merci. Une autre question dans la salle. Allez, tout en haut.
Merci. J'aimerais savoir si avec les procédés de formation des étoiles et des planètes, on peut expliquer pourquoi certaines planètes ont des anneaux et d'autres pas. Est-ce que c'est toujours des disques d'accrétion ?
Alors, par exemple, les anneaux de Saturne, on ne pense pas que c'est un disque d'accrétion. Les anneaux de Saturne, aujourd'hui, le scénario qui a la corde, c'est que les anneaux de Saturne, c'est un satellite massif, enfin plus gros, qui s'est désintégré en s'approchant trop près de Saturne à cause des effets de marée de la planète Saturne. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, c'est les débris d'un gros satellite détruit par effet de marée. Donc on pense que ce qui se forme dans des disques autour des étoiles, des planètes géantes, ce sont certains satellites. On pense que des gros satellites de planètes géantes se sont formés dans ce qu'on appelle des disques circumplanétaires. C'est comme des mini-disques protoplanétaires, mais autour des planètes géantes. Mais les anneaux eux-mêmes, dans la plupart des cas, on pense que les anneaux, ce sont des débris collisionnels de satellites qui se sont désintégrés à un moment donné, en général par effet de marée, en s'approchant trop de la planète géante. C'est deux choses différentes.
On va prendre encore juste une ou deux questions, parce que la soirée avance. Une sur le chat, l'hypothèse du grand bombardement tardif est-elle toujours plébiscitée actuellement ? Est-ce que tu
non.
peux dire quelques mots sur cette hypothèse ?
En un mot, non. En deux mots, non, non. En fait, je reviens là. En fait, j'ai un peu triché. Là, j'ai pris un transparent qui était au départ du grand bombardement tardif. C'est-à-dire que jusque dans les années 2005-2010, on pensait qu'un événement majeur s'était produit dans le système solaire au bout de 500 millions d'années. On pensait qu'au bout de 500 millions d'années, il y a eu un sursaut d'activité dans le système solaire, c'est-à-dire qu'en observant les cratères sur la Lune, en comptant les cratères sur la Lune, on s'est aperçu qu'au bout d'un 2 milliards d'années, il semblait y avoir un excès de bombardements sur la Lune, et on pensait avoir le même excès sur Mars. On pensait donc qu'à 500 millions d'années, dans le système solaire, il s'était passé un truc qui a fait que des astéroïdes, des comètes se sont mis à se balader n'importe où, à percuter tous les astres du système solaire. On pensait qu'il y avait une énorme instabilité dynamique qui s'était produite. Et pour expliquer cette instabilité dynamique, on a créé ce scénario qu'on appelle le scénario de Nice, le Nice model, voilà, on est des gens qui ont de l'humour en astronomie, dans lequel vous avez justement Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui interagissent les unes avec les autres. Dans le scénario initial, Uranus et Neptune changeaient de place, même échangeaient leur place, ça avait été un sacré bazar. Il y avait un immense bazar dynamique dans le système solaire, et l'une de ses conséquences, c'est que la Lune était bombardée à 500 millions d'années dans son histoire. Aujourd'hui, on sait que non, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que, théoriquement parlant, on ne voit pas très bien comment ça marche, comment 500 millions d'années après la formation du système solaire, il reste suffisamment de masse dans ces petits planétésimaux pour faire le bazar. Et puis surtout, on s'est aperçu qu'en fait, en refaisant les choses de manière propre sur la Lune, il n'y a pas d'excès à 500 millions d'années. On est quasiment certain qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a suréchantillonné certaines régions sur la Lune, c'est les missions Apollo, qui ont à peu près tous le même âge dans les mêmes régions où il s'est passé un ou deux gros impacts à 500 millions d'années. Et on pense donc, statistiquement parlant, que le comptage des cratères sur la Lune aujourd'hui, n'indique plus du tout qu'il s'est passé un truc spécial à 500 millions d'années après la formation de la Lune. Par contre, le mécanisme lui-même, oui, il est toujours d'actualité, mais on pense qu'il a eu lieu beaucoup plus tôt, quasiment tout de suite, dès que le gaz a disparu. Donc au bout de 10 millions d'années à peu près. Donc c'est pour ça qu'on appelle, on l'appelle plus l'instabilité tardive, on l'appelle l'instabilité précoce.
Alors je vais prendre une dernière question, un dernier commentaire, parce que l'heure avance, et puis on va finir la soirée.
Merci pour cet exposé fascinant. Pourquoi, enfin, a-t-on une idée de la raison qui fait que les nuages de gaz disparaissent au bout de 10 millions d'années ? Et puis si je peux une deuxième question, le système solaire actuel est-il stable ?
Alors, je vais répondre à la deuxième avant la première. Les stabilités à long terme du système solaire, c'est fait par un groupe de chercheurs sous la direction de quelqu'un de très connu qui s'appelle Jacques Lascar, qui travaille juste à côté d'ici, qui fait ça depuis les années 90, et qui fait des simulations de la stabilité à long terme du système solaire. C'est très difficile de faire ça parce qu'on peut montrer qu'on ne peut pas prédire plus de 100 millions d'années dans l'avenir exactement la stabilité du système solaire. Il devient chaotique. Mais, statistiquement, en faisant tourner des milliers et milliers de situations, la majorité des simulations se terminent par un système solaire stable. Donc, pour revenir à la première question, pourquoi le... Alors, c'est le transparent sur lequel j'ai vraiment dû sauter à toute vitesse parce qu'il est compliqué et j'avais plus le temps. On pense que, premièrement, il y a une preuve observationnelle que les disques de gaz disparaissent, les disques de gaz primordiaux massifs disparaissent entre 3 et 10 millions d'années après la naissance des étoiles. On n'a pas de disques de gaz massifs autour d'étoiles de 50 millions d'années, ça n'existe pas. Et deuxièmement, la théorie montre que dans un disque protoplanétaire où il y a du gaz, où il y a à la fois du gaz qui va être accrété par l'étoile et un rayonnement ultraviolet de l'étoile jeune, en plus du rayonnement ultraviolet des étoiles les plus proches qui se sont formées dans l'amas, la combinaison de ces deux effets, c'est assez compliqué, mais va arriver au bout de quelques millions d'années, c'est assez systématique, à vider l'essentiel du gaz qu'il y a dans le système. Je ne veux pas rentrer plus dans les détails, c'est vraiment assez compliqué, mais la combinaison de ces deux effets, accrétion visqueuse et rayonnement ultraviolet, est capable de balayer le disque de gaz en quelques millions d'années, entre 1 et 10 millions d'années. Après, évidemment, c'est des simulations, on a juste tous les paramètres pour que ça marche, mais ça marche.
Voilà, et je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Donc, je vous rappelle que le mois prochain, donc le 5 décembre, nous recevrons Pierre Léna et Jean-Claude Vial qui nous parleront de la couronne solaire et de Serge Kouchmi. Les réservations sont à partir de demain sur notre site web. Merci à vous tous d'être venus. Merci à ceux qui nous suivent sur Internet. Merci à l'équipe technique avec un nouveau réalisateur ce soir, Frédéric, et je crois que tout a bien fonctionné. Et puis, merci Philippe pour cette conférence. Voilà, merci, bonsoir.